Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, beau succès pour l'opération Mon Agglo pour l'Emploi. À Manosque, la foule était au rendez-vous de Pôle Emploi et la DLVA. Les communes de l'agglomération manosquine vont bénéficier de subventions départementales grâce au contrat de solidarité territoriale. Nous entendrons Eliane Bareil et Jean-Christophe Petrini. Le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence au soutien pour construire une nouvelle caserne des pompiers assisteront. Le reportage de Chris Alessandri pour Force 7. Volx, la requalification de l'ancienne coopérative bénéficie de l'aide de l'État via les fonds friches. L'interview de Jérôme Dubois, maire de Volx, dans ce magazine. À Digne, le spa thermal séduit le public local. Odile Frison a interviewé Véronique Lemaire qui dirige les thermes. C'est la troisième édition du Son des Peuples, le festival itinérant de jazz et musique improvisée va résonner d'Avignon à Fort-Calquier en passant par Maubec et Apt. Forum Pôle emploi à Manosque, un record d'affluence.
Beau succès pour l'opération Mon Agglo pour l'emploi dans le bassin manosquin, avec de nombreux visiteurs, notamment à la salle Osco Manosco, à tel point que le parking attenant, pourtant imposant, fut rapidement saturé. Pendant une matinée, les demandeurs d'emploi ont pu avoir des contacts directs avec des entreprises, des organismes de formation et des structures, telles Mission Locale pour les Jeunes ou encore Pôle emploi, organisateur principal aux côtés de l'agglomération manosquine. Commerce, services ou encore intérim, entre autres secteurs d'activité, étaient représentés par des entreprises et organismes et proposaient de nombreux postes. Car si les demandeurs d'emploi se pressaient, c'est normal, plusieurs activités en quête de personnel ont aussi profité du forum. Parmi celles-ci, l'entreprise agricole de Frédéric Esmiol, par ailleurs président de la Chambre d'agriculture des Alpes d'Haute-Provence, un secteur qui manque de bras et recrute. Avant de l'écouter, l'interview de Laurence Guillameau, qui dirige l'agence locale de Pôle emploi, totalement mobilisée sur l'opération. Laurence Guillameau, vous dirigez l'agence de Pôle emploi de Manosque. C'est véritablement un succès, ce forum.
Alors oui, on est vraiment, vraiment ravis. Les demandeurs d'emploi, jeunes, moins jeunes, se sont mobilisés en nombre puisque à 10h, on enregistrait plus de 400 visites qu'on a pu compter à l'entrée. L'ensemble des 50 entreprises et organismes de formation qui sont présents ont du monde à peu près sur tous les stands et sur toutes les tables. Les gens continuent à tourner, il est presque 11h et il y a encore beaucoup, beaucoup de monde dans ce forum. On est vraiment tout à fait satisfait de la réussite et surtout de la mobilisation des publics.
Les entreprises, mais aussi vos personnels à Pôle emploi, se sont mobilisés également.
Effectivement, alors c'est vrai, merci de le souligner, parce que c'est un vrai engagement de l'équipe de Pôle emploi. On est plus d'une dizaine présents ce matin sur le forum, conseillers demandeurs d'emploi, conseillers entreprises, à tourner, à répondre à des questions, à orienter les demandeurs d'emploi en fonction de leurs souhaits. On a un espace casque de réalité virtuelle où les personnes peuvent venir tester des environnements professionnels. Donc ça, c'est pareil, c'est un espace Pôle emploi. Donc effectivement, c'est un gros investissement pour l'agence, mais on est très heureux d'avoir des événements comme ça qui montrent qu'il y a du travail à Manosque et qu'il y a aussi des personnes qui cherchent du travail, des demandeurs d'emploi qui sont capables de se mobiliser, de venir avec un CV, de rencontrer des entreprises, de discuter sur les stands.
Est-ce qu'on peut évaluer le nombre de postes que vous proposez actuellement ?
Alors là, je suis sûre qu'il y a plusieurs centaines de postes à pourvoir sur ce forum. D'une part, sur un certain nombre d'entreprises qui sont venues représenter leur entreprise, mais également à travers les agences d'intérim qui, elles, ont des dizaines de postes à pourvoir, bien entendu. Et puis également les représentants du secteur agricole où là, les besoins de main-d'œuvre, on sait au démarrage de la saison, je veux dire, c'est des dizaines de salariés sur toutes les exploitations agricoles nécessaires.
puis également ce contact direct entre l'employeur et le demandeur d'emploi, c'est fondamental.
C'est fondamental, d'autant que ce qui se passe sur les forums, c'est que les personnes tournent, sont attirées par une enseigne, sont attirées par un visage et vont aller discuter avec une entreprise et des connexions qui ne se feraient absolument pas à travers une offre d'emploi où la personne se dit « bah non, je ne correspond pas au profil ». Là, puisqu'il y a de la place sur le stand, la personne est accueillante, je vais aller discuter et puis je vais avoir une opportunité auquel j'aurais pas du tout pensé et peut-être effectivement un entretien derrière et pourquoi pas une embauche.
Frédéric Espignol, vous êtes chef d'entreprise, vous représentez le GAEC de Fonds-Rénières. Vous êtes ici au Forum de l'Emploi car vous avez des besoins en main-d'œuvre.
Oui, effectivement, bon, le sujet récurrent sur nos exploitations agricoles. Moi, je me félicite aujourd'hui d'être à ce forum. Belle organisation. Pas mal de candidats intéressés, effectivement, sur notre exploitation qui embauche aujourd'hui une quarantaine de personnes. Alors, essentiellement déjà des saisonniers, avec une période de travail qui s'échelonne du 15 avril, on va dire, au 15 octobre. Il nous manque aujourd'hui 7-8 personnes pour compléter l'équipe, qui est maintenant pas mal étoffée. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui.
Est-ce qu'on a besoin de dispositifs ou de compétences particulières pour travailler chez vous ?
Pas du tout. Moi, ce que je demande, et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai 4 personnes qui sont intéressées pour venir travailler chez nous. C'est des gens qui sont volontaires, effectivement, qui ne craignent pas trop le mal au dos, puisqu'on faisait de l'ail essentiellement et de la salade, et que ça pousse par terre. Donc, il faut bien sûr être paillé pour les récolter. Ce que je recherche, ce n'est pas des gens qui sont expérimentés, c'est des gens surtout volontaires et qui ont envie de travailler. Donc, voilà, je trouve qu'il y a une belle affluence. Je ne sais pas chez mes autres collègues comment ça se passe, mais moi, je suis relativement satisfait aujourd'hui de la tournure que prend ce forum.
Ce sont des contrats de quelle durée que vous proposez ?
Alors là, c'est des durées entre, là pour le moment, c'est entre 2 mois. Et il y a une personne là qui pourrait venir travailler pour une période de 5 mois. Donc en fonction de ce qu'ils recherchent, de la pratique qu'ils ont eue par le passé, puisqu'on a aussi, on est en train de développer une activité, un circuit court avec de la récolte à la ferme, multi-produits. Je viens de trouver une personne qui avait déjà cette pratique-là, donc elle, je peux l'embaucher sur une période de 5 mois. Je suis relativement heureux.
Frédéric Espignol, vous êtes chef d'entreprise, mais vous êtes aussi président de la Chambre d'agriculture. L'agriculture qui est en souffrance actuellement du côté des recrutements.
Le recrutement aujourd'hui est un frein sur nos exploitations dans toute leur diversité, puisque je suis producteur de légumes, il y a de nombreuses stations fruitières aussi, exploitations arboricoles sur ce département. J'ai un collègue aujourd'hui ici aussi qui a aussi un domaine viticole. Je crois qu'on est tous à la recherche de main-d'œuvre saisonnière. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents aujourd'hui. Pour certains métiers, oui, il faut aujourd'hui de l'expérience, de la pratique. On ne peut pas envoyer tailler des arbres fruitiers, des vignes, n'importe qui. Et il faut des gens qui soient plus ou moins expérimentés. Mais on se rend compte aujourd'hui que nombreux sont les personnes qui passent, qui sont à la recherche d'un travail et qui ont l'air d'être volontaires et qui peuvent effectivement venir compléter nos équipes. Je crois que c'est vraiment le but de ce forum. La Chambre d'agriculture est partenaire aujourd'hui avec la FDSEA, puisque je n'oublierai pas nos collègues du syndicat de la FDSEA qui sont présents aussi aujourd'hui pour faire la promotion de notre métier. Je crois aussi casser quelques tabous, parce que c'est vrai que l'agriculture est un métier pour certains qui peuvent penser être un métier difficile ou un travail. Maintenant, c'est la période où on va normalement vers des plus belles journées de grosse chaleur, donc un travail qui peut être pénible, qui contraint effectivement des conditions climatiques qui sont peut-être plus difficiles que dans d'autres secteurs, mais qui aujourd'hui qui est intéressant, qui s'est fortement mécanisé. Je crois que c'est moins un travail ingrat que ce qu'il y avait par le passé, donc c'est la raison pour laquelle je crois aujourd'hui on participe à ce forum.
Conseil départemental 04, solidaire des communes.
Des signatures importantes pour la réalisation de projets communaux grâce au contrat départemental de solidarité territoriale sur la période 2021-2023. Au soutien des intercommunalités et des communes, le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence contractualise pour accompagner un développement équilibré, équitable et solidaire. Outre le fonds d'aide aux communes, le FODAC, 6 millions d'euros sur 3 ans, le contrat a un budget disponible de 20 millions d'euros, auquel s'ajoute le plan bâtimentaire pour le service d'incendie et de secours sur 10 ans, soit 7 millions d'euros. Des sommes importantes et sur le territoire de DLV Agglo, avec une enveloppe de 2 600 000 euros pour la modernisation du théâtre Jean Lebleu à Manosque, l'accessibilité du château des Templiers à Gréoux, des équipements sportifs à Sainte-Tulle ou encore des schémas d'assainissement pour plusieurs communes, Valensole, Riez, Roumoul, Oraison, Esparron et La Brianne, des projets territoriaux toujours ouverts, dont la présidente Eliane Barreil voudrait voir les collectivités s'emparer. Elle le confie dans cette interview, puis vous entendrez Jean-Christophe Pétrini, qui préside Durance-Luberon-Verdon, agglomération. Eliane Barreil, vous présidez le département des Alpes de Haute-Provence. La solidarité territoriale n'est pas un vain mot.
Non, c'est pas un vain mot. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous venons de signer le contrat de solidarité territoriale envers la DLVA. C'est le quatrième, je crois, que nous signons. Ce sont des contrats qui avaient été imaginés par la précédente mandature. Donc, nous sommes aujourd'hui à la signature. Et nous travaillons, bien sûr, sur les prochains contrats, avec peut-être quelques modifications de critères. Mais en tous les cas, sur des, évidemment, avec des contrats qui prendront en compte, comme c'est le cas aujourd'hui, l'ensemble des collectivités qui composent les territoires.
Alors vous avez parlé de cette procédure particulière de 2021-2023 et vous avez appelé gentiment mais fermement les communes à déposer des projets.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on a une dizaine de projets déposés sur 36, ce qui veut dire qu'on bloque beaucoup d'argent et il y a peu de demandes à l'instant. Il y a une obligation, c'est de commencer les travaux avant la fin décembre 2023, d'où l'obligation aussi d'avoir une réponse du département pour la demande de subvention. Il y a un peu d'urgence, c'est ce que j'ai rappelé. Et puis, bien sûr aussi, j'ai rappelé aux maires présents que s'ils avaient l'impression que leur dossier ne pourrait pas aboutir avant la fin du contrat ou démarrer avant la fin du contrat, je les incitais vivement à les reporter sur le contrat suivant pour ne pas bloquer impunément des sommes qui pourraient servir à d'autres collectivités.
Alors la somme, justement, 2,6 millions, c'est considérable pour l'agglomération.
Oui, c'est quand même un grand nombre de communes. C'est la plus grosse communauté du département. Donc, il n'y a rien d'absolument exceptionnel. Simplement, moi, je veux donner un peu plus de lisibilité, justement, sur ce qui fait la solidarité territoriale, puisque le FODAC, les critères sur les dossiers de l'eau, etc., tout ça, c'est déjà défini. Ça peut faire l'objet d'enveloppes totalement séparées.
Alors à vos côtés, le président de la DLVA, Jean-Christophe Pétrini, c'est une opportunité importante, mais c'est aussi un parrainage, entre guillemets, avec le département qui est important.
Oui, tout à fait, le département des Alpes-de-Haute-Provence est l'un des principaux partenaires institutionnels de notre communauté d'agglomération. Ce contrat, comme l'a dit Madame la Présidente, donne de la lisibilité sur l'action du département sur les territoires. Et elle permet justement de mettre en avant toutes les actions que le département porte. Nous nous en félicitons, nous entretenons des relations excellentes avec le département et au travers de cette contractualisation, nous allons continuer à avoir ces relations excellentes tout le long du mandat.
Et vous allez faire la promotion de ce dispositif auprès des maires de vos communes?
Oui, en fait, on va, comme l'a signalé Madame la Présidente, là, il y a apparemment un petit souci sur le dépôt des dossiers, puisqu'il faut que quand même les communes s'engagent qu'à fin 2023 de réaliser le programme sur lequel elles veulent être soutenues par le département. Donc on va avoir une clause de revoyure là bientôt, au mois de mai, et pour inciter les communes à se repositionner ou à reporter leur investissement sur le prochain contrat.
Ce qui est important également, c'est qu'il y a une diversité au niveau des projets et c'est plusieurs secteurs qui sont concernés.
Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Et bien, le volet solidarité territoriale, justement, permet au département, je ne vais pas faire la publicité, mais permet au département d'agir sur un vaste éventail de compétences, hormis ces compétences régaliennes, l'eau, l'assainissement, etc., sur lesquelles il nous aide énormément, nous aussi, puisqu'on a la compétence eau assainissement. Mais ça permet d'aider des projets communaux en dehors des compétences régaliennes du département.
Sisteron, une nouvelle caserne en vue pour les pompiers.
Jeudi dernier avait lieu en mairie de Sisteron la signature de la convention pour la réalisation de la future caserne de la ville. Le corps du bâtiment en forme de L sera en ossature bois, ceinturé au sud et à l'est par une structure en béton sur une surface totale de 1261 m². Une réalisation après plusieurs années de discussions, d'études et au final une convention multipartite de financement négociée avec l'Association des maires et le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence. Ce nouveau centre marque la première réalisation du partenariat relatif au financement du plan bâtimentaire du SDIS 04 qui jusqu'alors était assuré sur son seul budget. Une convention stipule que le financement des constructions ou des rénovations de casernes sera désormais assuré sur les budgets du département, des communes concernées et de l'État dans la majorité des cas. Chris Alessandri a recueilli les réactions d'Eliane Bareil, présidente du conseil départemental, Jean-Claude Castel, président du SDIS, le sénateur Jean-Yves Roux, Daniel Spagnou, maire de Sisteron, et puis le colonel Christophe Péchou, qui dirige le service départemental d'incendie et de secours du 04.
Eliane Bareil, président du conseil départemental, c'est un aboutissement, un financement qui n'a pas été de tout repos quand même.
C'est jamais simple quand il y a beaucoup d'interlocuteurs et beaucoup de financeurs. Là, en l'occurrence, bon, le département est venu en compensation de l'État, puisque l'État ne finance pas la DETR sur la commune de Sisteron, statutairement. Donc on a accepté de financer beaucoup plus que sur les autres casernes. Mais par ailleurs, comme sur tous les plans bâtimentaires, sont appelés au financement les communes qui sont dans le secteur sécuritaire. Donc évidemment, les communes ont été obligées, elles aussi, de venir sur l'investissement, ce qui ne s'est pas fait tout à fait simplement. Mais je pense que les maires sont déjà responsables. Ils ont bien compris qu'ils avaient l'obligation d'être présents sur des investissements qui sont des investissements de service à la population. Et donc le financement est bouclé. Mais j'espère simplement une chose, c'est qu'au vu des événements actuels, nous n'ayons pas encore des travaux qui vont être en augmentation. Parce que malheureusement, avec le coût des matériaux et les difficultés pour les entreprises à s'approvisionner, c'est le risque. Donc j'espère que nous allons réussir à rester dans l'enveloppe initiale.
Eliane Bareil, c'est une nouvelle orientation pour réfléchir sur le financement à présent pour les maires des communes?
C'est une nouvelle orientation, mais en tous les cas, nous, c'est une position que nous avons prise en arrivant pour permettre aux communes de réaliser leur propre centre de secours. Donc je pense que tout le monde maintenant a pris acte. Et puis à partir du moment où une ou deux casernes vont sortir, je pense que les choses vont aller plus rapidement et plus facilement. Ça va rentrer dans l'état d'esprit des gens et ça va se faire. Il n'empêche qu'il était important qu'il y ait cette réaction parce que le SDIS ne pouvait pas continuer à porter toutes les casernes. Et tous les plans d'investissement, ils n'avaient pas la capacité financière à le faire. Il était important que le département et les communes se mettent aux côtés du SDIS. Alors là, pour la caserne de Sisteron, c'est 1,7 million du département, pour 2,3 millions à peu près des montants de travaux. Mais globalement, pour le département, c'est 7 millions sur 3 ans dans le plan bâtimentaire, plus 3 millions pour des équipements nouveaux, plus une participation sur les indemnités aux sapeurs-pompiers volontaires et une participation aussi sur l'embauche de personnel. Donc je crois que là, la boucle est bouclée et nous avons fait un réel effort.
Jean-Claude Castel, président du SDIS, un homme qui est vraiment à sa place. C'est ce qu'on a entendu durant cette rencontre.
Écoutez, ça paraissait pas évident. D'ailleurs, Monsieur Spagnou, avec l'expérience qui est la sienne, a été étonné quand j'ai été nommé président du SDIS parce qu'il pensait peut-être pas que mon caractère s'adapterait à cette fonction. Eliane m'a dit, j'ai besoin d'un homme fort au SDIS, il faut que tu y ailles. J'ai réfléchi longtemps. Parce que c'est pas une mince affaire, c'est pas une petite responsabilité. 42 casernes, 350 engins, 1600 et quelques personnels. C'est une grosse famille, le SDIS 204. Et j'ai obtenu quelques garanties auprès de la présidente par rapport au financement, parce qu'on peut pas arriver quelque part les mains vides, demander tout pour rien aux gens. Et je me suis lancé dans la bagarre. Et aujourd'hui, je dois dire que, sans que je sois accro, le mot est peut-être un peu fort, mais je trouve que vraiment, j'ai trouvé ma place. Je travaille avec une équipe de direction en qui j'ai entière confiance et qui sont des gens honnêtes et performants. Et je pense qu'on va faire de grandes choses au bout de la mandature pour les pompiers du 04.
Vous êtes au contact des personnes qui sont sur le terrain. Vous êtes un homme de terrain, bien sûr. Et là, la caserne, c'est quelque part, c'est quelque chose qui se méritait et qui est mérité.
Mais la caserne, c'est quelque chose qui se méritait et qui est mérité. Il ne faut pas oublier que dans le 04, sur 1600 pompiers, on n'en a que 70 qui sont professionnels. Donc ça veut dire 1500 et quelques qui sont volontaires. Alors quelqu'un qui s'engage volontairement à aller passer ses week-ends dans une caserne pour aller secourir des gens qui en ont besoin, le minimum de la chose, c'est qu'il soit bien reçu dans cette caserne et qu'on le loge dignement et qu'il soit bien, parce qu'il y a un esprit famille dans les pompiers qui se crée. Et la famille, ben, tu le sais, il faut un foyer, et le foyer, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit bien, voilà.
Jean-Yves Roux, nous sommes arrivés au bout d'un projet qui a été longuement mené, qui a été travaillé en fond. Vous avez été aux côtés de ces personnes qui ont porté ce projet durant toute la période.
Oui, tout à fait. On voit un peu, hein, il a fallu choisir un terrain. Daniel Spagnou a eu un choix idéal. Après, il a l'aménagé au niveau de tout ce qui est réseau, eau, électrification. Bon, je veux dire, et c'est vrai que ce projet, c'est l'aboutissement aujourd'hui de cette réalisation qui va venir. Et l'inauguration est prévue fin d'année 2024. Et j'espère être présent à cette inauguration parce que c'est une fierté de voir l'engagement des élus de tous bords confondus pour les sapeurs-pompiers des Alpes-de-Haute-Provence.
Daniel Spagnou, est-ce que vous ressentez cette signature comme l'aboutissement de ce projet que vous menez depuis de nombreuses années ?
Oui. Il a fallu quand même 13 ans pour arriver à la signature aujourd'hui de la convention qui nous lie désormais avec le conseil départemental, puisqu'en fait, on est la première commune du département à réaliser une caserne de pompiers, parce qu'avant, c'était le département qui réalisait les casernes de pompiers pour le compte des communes. Là, c'est le contraire. On est subventionné par le département à 70%, et nous, on doit apporter 30%, alors qu'avant, on n'apportait que le terrain. En plus, donc, on apporte le terrain, plus toute la viabilité, bien sûr, pour que la circulation puisse se faire convenablement. Dans la plupart des départements français, c'est comme ça. Il a fallu que l'Association des maires de France négocie avec le département. Ça a demandé 2 ans, cette convention. L'affaire approuvée par l'Assemblée générale des maires de notre département, qu'il a approuvée à l'unanimité, pour qu'on puisse, enfin, signer aujourd'hui la propre convention pour la commune de Sisteron, avec les 7 autres communes qui font partie du secteur géographique des sapeurs-pompiers de Sisteron. Donc c'est une belle journée, c'est un bel événement. On va enfin avoir une caserne dite de ce nom. Là, elle est superbement bien installée, pas loin de l'autoroute. C'est une belle et grande journée pour les sapeurs-pompiers et pour la sécurité du Sisteronnais.
Colonel Péchou, qu'est-ce que vous pensez de ce projet qui a été mené à bien ?
Moi, j'en pense déjà que c'est une excellente nouvelle, d'abord pour les sapeurs-pompiers eux-mêmes, bien sûr, parce qu'ils vont pouvoir disposer d'un équipement moderne et adapté, mais c'est aussi avant tout une bonne nouvelle pour la population qu'ils défendent et auquel ils apportent des secours au quotidien. C'est aussi un signal qui est envoyé par les élus du département, de Sisteron et des communes qui sont défendues en premier appel par ce centre de secours, parce que c'est un message à la fois de soutien et de solidarité envers nos sapeurs-pompiers. Et puis c'est le coup d'envoi d'un beau programme pour nous, puisque nous avons 16 centres de secours qui progressivement devront être refaits, rénovés, reconstruits dans le cadre du plan bâtimentaire qui a été voté en partenariat entre l'État, le département, l'association des maires du département et le SDIS. Donc c'est un beau point de départ pour une belle aventure qui s'ouvre là.
Des fonds friches pour Volx.
Dans le cadre du plan France Relance, des fonds sont attribués aux communes et partenaires pour le recyclage foncier de friches. À Volx, c'est l'imposante et antique coopérative viticole qui va en bénéficier. Construite au siècle dernier dans les années 30, elle a cessé toute activité 50 ans plus tard et depuis, au fil du temps, elle était devenue une verrue en plein centre-ville. Portée par la société MAP, Méditerranée Aménagement Promotion et la mairie de Volx, le projet contribuera à renouveler et agrémenter le centre du village. Des logements locatifs sociaux, des commerces de proximité, une colocation pour seniors et également un cabinet médical, le dossier ne manque pas d'attrait. C'est un îlot de vie intégré et des services nouveaux qui vont valoriser cet espace. Il y a un mois, venu pour visiter les thermes de Gréoux-les-Bains, le ministre du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, a effectué le détour jusqu'à Volx pour une présentation du projet. Je reviens avec le maire de Volx, Jérôme Dubois, sur l'importance de cette requalification pour sa commune et ses administrés. Jérôme Dubois, vous êtes maire de Volx, il y a un projet important sur votre commune.
Effectivement, nous avons accueilli le ministre du Tourisme pour présenter ce projet qui est aidé par l'État, qui est le projet de requalification de l'ancienne cave coopérative à Volx, qui est une surface de plus de 2000 m² en centre de village, qui est abandonnée depuis des décennies et qui est un foncier que la commune a racheté avec l'aide de la région au début des années 80. Et aujourd'hui, nous avons une opération d'aménagement. Il s'agit de raser l'ancienne cave et de faire une opération complexe au centre du village. Alors, opération complexe, ça veut dire qu'il y a environ 3000 m² à construire, dans lequel nous allons mettre à la fois des logements, logements en accession et des logements sociaux. Mais nous allons aussi mettre dans cette opération un certain nombre d'équipements qui manquent aujourd'hui à la commune. Notamment, les Volxiens le savent, puisque c'est un des combats du mandat, l'installation d'un cabinet médical en capacité d'accueillir 4 médecins généralistes, qui sera en acquisition par la commune, c'est-à-dire que nous serons maîtres des murs. Également la construction de 300 m² disponibles pour des activités commerciales, puisque nous sommes en centre de village et c'était important d'offrir comme ça des possibilités de services. Nous travaillons aussi avec un opérateur privé pour y mettre une résidence senior. Alors une résidence senior, ce sont des locaux dans lesquels les seniors gardent leur indépendance. C'est pas du tout le modèle de la maison de retraite. Ce sont des studios, mais avec une salle commune et un certain nombre de services à la carte, notamment le ménage ou la livraison de repas. Donc une semi-indépendance qui est encadrée par du collectif. Donc ça aussi, c'était important dans le cadre d'une population qui vieillit. Bah ça nous permet d'offrir des modèles un peu différents à la maison de retraite classique. Je dois oublier un certain nombre d'opérations, notamment quelques locaux commerciaux qui permettront d'accueillir des activités de bureau, des activités tertiaires. Donc c'est une grande opération pour Volx, puisque à la fois ça va redynamiser le centre du village, ça va moderniser l'entrée du village, parce que c'est très bien placé en plein milieu, et puis ça offre toutes ces possibilités de développement que je viens d'évoquer.
On peut remarquer qu'il y a une conjonction d'objectifs publics-privés sur cette opération. Jérôme Dubois, les travaux vont démarrer, il va y avoir une certaine perturbation pour vos administrés.
Oui, alors deux éléments de réponse. Sur le public-privé, effectivement, c'est une des caractéristiques de cette opération, puisque c'est du foncier communal. La commune, le conseil municipal a réfléchi au programme, c'est-à-dire que c'est une commande politique, les éléments que je viens de citer. Néanmoins, nous n'avons pas souhaité réaliser l'opération en propre, puisque 3,5 millions d'investissements, ça paraissait un peu lourd pour la commune, et donc nous travaillons avec un promoteur privé, qui a déjà travaillé sur la commune, que l'on aime bien, MAP Immobilier, qui porte l'opération. Et donc la commune s'occupe uniquement de partie cabinet médical, aménagement extérieur, donc nous travaillons main dans la main ensemble. Voilà. Et c'est d'ailleurs, j'ai évoqué la visite du ministre, nous avons bénéficié d'une subvention substantielle de l'État de 470 000 euros dans le cadre du fonds Friche. Le fonds Friche, c'est une déclinaison du plan de relance. Ça permet aux collectivités d'équilibrer des bilans financiers sur des opérations d'aménagement complexes, parce que c'est en centre de village, parce qu'il faut détruire une cave coopérative, parce qu'il va falloir évacuer les gravats. Donc c'est beaucoup plus cher que de construire en rase campagne. Et la particularité de cette opération, je le cite parce que c'est un cas assez unique en France, c'est pas la commune qui bénéficie des subventions de l'État, c'est le promoteur, parce que c'est le promoteur qui porte. Et la deuxième question des travaux, oui, effectivement, nous allons commencer alors après la fête de Volx, c'est-à-dire au mois de mai, puisque le dernier week-end d'avril, nous aurons le jour du deuxième tour des élections présidentielles, nous aurons la fête à Volx, donc il va falloir faire cohabiter week-end électoral et fête foraine, mais c'est pas grave, on va y arriver. Donc là, on s'est dit que commencer les travaux, c'était trop compliqué. En revanche, dès la fête et les élections passées, nous allons débuter les travaux de démolition. Alors après, on va travailler sur la parcelle qui est suffisamment grande, donc il s'agit pas de couper la circulation dans le village. Il y aura une petite organisation pour ceux qui connaissent Volx sur le haut, sur la place du foyer rural. Il faudra sanctuariser un tiers de la place pour y mettre les engins de chantier, mais il y aura du bruit sans doute le temps de la démolition, mais c'est pas quelque chose qui nous effraie.
Vous avez d'autres projets immobiliers sur votre commune ?
Ça, c'est le grand projet, quelque part, du mandat. Quelque chose qui nous tient à cœur, parce que justement, il y a ce supplément d'âme. Mais oui, il y a un certain nombre d'opérations qui sont lancées aujourd'hui, puisque Volx est une commune attractive, dans la première périphérie de Manosque. Donc, nous avons de fortes demandes, que ce soit en termes de livraison de logements sociaux ou d'opérations privées. Oui, il y a quelques programmes aujourd'hui qui sont en cours de réalisation.
Vous espérez accueillir des néo-volxiens ?
Alors, ben oui, lorsqu'on construit, l'idée, alors je ne sais pas si ce sont des Volxiens déjà là ou des néo-Volxiens qui viennent de plus loin, l'idée aujourd'hui c'est de défendre un programme de construction minimum pour pouvoir permettre aux jeunes générations de se loger. Ça, je trouve que c'est un vrai combat. Souvent, les élus locaux, on nous reproche de trop construire. Alors, c'est vrai qu'on construit, mais vous dire que ce n'est pas pour nous en fait, puisque la plupart des gens qui représentent la commune au conseil municipal, nous sommes déjà habitants sur Volx, donc finalement, les gens déjà en place ont tout intérêt à rester tranquilles, à ne pas construire. Mais ce faisant, on sacrifie une génération. Donc je crois qu'il est important de pouvoir permettre à tout le monde de se loger et donc d'avoir un rythme de construction régulier pour permettre aux jeunes générations de se loger. En tout cas, c'est la philosophie de la mairie et on veille à Volx, commune de 3300 habitants, à ce qu'il y ait, bon an, mal an, au moins 25 permis, 25 constructions neuves tous les ans, justement pour permettre de loger ces nouvelles population.
Le succès dès son ouverture pour le spa des Thermes d'Innoy.
Ouvert depuis le 14 mars 2022, après de longs travaux en période Covid, le spa de l'établissement thermal de Digne-les-Bains a bien démarré auprès du public dignois. Ce week-end, l'hydrothérapie bien-être a tenté plus de 200 personnes le samedi et autant le dimanche. À noter que les familles peuvent profiter de ce nouvel équipement avec un espace pour les enfants à partir de 7 ans. La directrice Véronique Lemaire est ravie de ce succès et se réjouit de la réouverture des cures après ces deux années difficiles. L'agrandissement de l'espace bien-être est un atout supplémentaire pour le développement touristique sur Digne-les-Bains. Au micro d'Odile Frison, Véronique Lemaire présente les nombreuses animations proposées au sein de son établissement. Un salon y est disponible pour des conférences et séminaires et peut être loué par des comités d'entreprise, par exemple. Enfin, une exposition sur le thermalisme à Digne depuis son origine est à voir dans le spa. Une proposition des archives municipales avec des œuvres prêtées par le musée Gassendi et principalement par Charles Garcin qui a monté l'exposition. Véronique Lemaire.
Les travaux ont commencé en juillet 2019 et avec la crise sanitaire et toutes les difficultés d'approvisionnement, on s'est retrouvé finalement avec une ouverture du spa le 14 mars 2022. Nous accueillons tout public, hein, c'est-à-dire autant les locaux que les touristes, les couristes, les accompagnants. C'est un dispositif qui permet d'accueillir sur certains jours les enfants. Si nous accueillons donc les enfants pour l'espace aqualudique à partir de 7 ans, les mercredis et dimanches, toute la journée.
Le spa accessible aux enfants?
Oui, l'aqualudique.
Aqualudique, c'est-à-dire?
Voilà, l'espace du deuxième étage, donc c'est l'accès au bassin. Donc les familles, d'ailleurs c'est aujourd'hui un public qui est présent le dimanche, les familles viennent ensemble. Les enfants ne vont pas au sauna ni au hammam, par contre ils peuvent profiter du bassin et des animations.
Est-ce qu'il y a une piscine qui donne sur l'extérieur?
Alors c'est un seul et même bassin. Ce bassin donc permet à une jonction pour aller de l'intérieur vers l'extérieur tout en restant dans l'eau. Donc ce qui va nous permettre d'utiliser cet espace extérieur toute l'année puisque c'est un seul et même bassin et que les gens ne doivent pas passer par l'extérieur pour entrer dans le bassin.
Et avec les températures fraîches qu'il y a en ce moment, par exemple?
Eh bien, écoutez, dimanche, il faisait plutôt pas très beau, là. Hein. Il faisait fort couvert, il faisait pas très très chaud, mais les gens pu bénéficier et utiliser donc, cet espace extérieur, puisque l'eau est à 33 degrés.
Ce bassin, j'ai envie de dire, c'est vrai que c'est assez attrayant pour les Dinois et Dinoises pour se baigner, donc...
Tout à fait. Donc, il a vraiment, en tous les cas, plu aux locaux pour l'instant qui sont déjà venus essayer ce nouvel espace, puisque là, nous avons, on va dire, samedi et dimanche, on a reçu sur chacun des jours plus de 200 personnes. On était à 205 personnes le dimanche et 206 le samedi sur la journée. Donc, autant des gens qui viennent le découvrir que des gens qui y sont venus dans les semaines précédentes et qui y reviennent, puisque vraiment, les retours, en tous les cas, clients, c'est vraiment une installation qui leur plaît beaucoup. C'est un moment de détente et de bien-être.
Ça, c'est pour la part partie piscine, piscine spa.
Voilà, là c'est l'espace aqualudique, donc qui comprend et le bassin intérieur-extérieur avec toutes ces animations aquatiques, jacuzzi, nage à contre-courant, col de cygne, lit à bulles, des buses de massage, on a le tepidarium, le frigidarium et le caldarium, sauna et hammam. Et ensuite, donc au premier étage, on a aussi donc le spa, les cabines de soins avec une proposition donc de soins du corps, de soins du visage et de massage de bien-être, avec principalement nos deux partenaires Origine et Sotis. Et donc nous avons aujourd'hui mis en place soit des soins à la carte, soit des escapades, et nous proposons aussi des séjours. Nous avons aussi quelques soins un petit programme de soins qui a été mis en place avec les produits de Ciel d'Azur. Ciel d'Azur qui propose aujourd'hui donc une gamme de produits à base d'argile et d'eau thermale de Digne-les-Bains, qui nous permet de faire un enveloppement.
Donc ça, c'est toujours ouvert à tous. On n'est pas besoin.
Alors on n'est pas sur les enfants. Donc évidemment, ce sont les adultes à partir de 18 ans. Et c'est donc ouvert à tous, évidemment. L'idée de ce spa, c'est quand même un développement de l'activité que l'on avait, nous, déjà par l'intermédiaire de notre petit espace zen. Et donc, c'est de développer et d'ouvrir, évidemment, cette activité à tout un chacun.
Il y a des ateliers santé en plus des soins avec de la marche, du yoga.
Tout à fait. Donc nous proposons aussi, donc nous avons au rez-de-chaussée de ce nouvel établissement donc une salle d'activité sportive. Cette salle d'activité sportive propose un programme de gymnastique adaptée, de fitness sur mesure et d'ateliers santé. Donc les ateliers santé, c'est principalement donc la marche nordique, l'équilibre et la prévention des chutes, la relaxation façon yoga et un atelier spécifique sur le dos, théorie et pratique, pour connaître son dos et apprendre à utiliser son dos au quotidien.
Ce sont des ateliers à la carte ou il peut y avoir un abonnement?
Donc alors là, vous êtes en avant-première, hein, puisqu'on a eu un conseil d'administration ce matin où nous avons proposé justement de revoir un petit peu la proposition qu'on avait au niveau de cette salle d'activité sportive, puisque nous allons mettre en place, donc soit on peut venir à l'unité évidemment pour faire une activité, que ce soit la gymnastique adaptée, le fitness sur mesure ou un atelier santé. Nous proposons aussi de prendre 3 ateliers santé, il y a un tarif dégressif pour les 3 ateliers santé. Et depuis ce matin, donc on nous a validé aussi des abonnements pour cette salle d'activité sportive, que ce soit des abonnements spécifiques pour les cours collectifs de gymnastique adaptée, que ce soit des abonnements pour le fitness sur mesure et que ce soit un packaging avec la totalité et en plus avec des accès à l'aqualudique.
Alors, en plus de tout ça, bien sûr, il reste les cures thermales, ORL et...
Notre cœur de métier.
Voilà. Et puis aussi la cure fibromyalgie. Est-ce que ça, c'est récent ou...
Non, alors, c'est pas récent. C'est pas récent, c'est quelque chose qu'on avait mis en place, me semble-t-il, en 2017 ou 2018. La cure en fibromyalgie, elle est tout à fait complémentaire de la cure en rhumatologie, puisque les personnes qui viennent, évidemment, la fibromyalgie n'est pas prise en charge par la sécurité sociale. Et donc, nous proposons aux personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, sur des sessions spécifiques, à des dates spécifiques, de participer donc le matin à la cure en rhumatologie et l'après-midi à des ateliers spécifiques pour la fibromyalgie.
J'imagine que vous êtes plutôt satisfaite de cette réouverture?
Alors, on a vécu quand même 2 années assez compliquées, hein, avec les fermetures administratives. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est déjà très content d'être ouvert, hein, de pouvoir reprendre notre activité. Il est clair qu'on a besoin d'avoir une réassurance de nos curistes pour revenir en cure aussi, hein, par rapport à une situation qu'ils ont aussi quand même mal vécue pendant ces 2 ans. Mais ces personnes ont besoin de se soigner. Donc, pour la cure, évidemment, oui, nous sommes très satisfaits de pouvoir accueillir nos curistes aujourd'hui et en plus de pouvoir proposer, que ce soit aux curistes, aux accompagnants, mais aussi aux locaux et aux touristes, l'ouverture de ces nouvelles activités, le développement de notre activité au niveau du spa thermal.
On peut dire qu'aujourd'hui, le bien-être est ô combien important.
Tout à fait. Avec ce que l'on vient de vivre, je pense que c'est ce que recherche la majorité des gens, c'est de pouvoir vraiment avoir un moment à eux, un moment de bien-être, et notre établissement est vraiment dédié à ça.
Véronique oui. Lemaire, merci. Et pour ceux qui voudraient plus d'informations, on retrouve toutes les informations d'ouverture, de tarifs sur le site.
Sur le site internet du spa thermal de Haute-Provence, il y a un lien aussi du site internet des thermes, évidemment. On nous retrouve sur les réseaux sociaux et on peut toujours nous contacter. Nos agents d'accueil seront là pour renseigner. On invite tout le monde à venir découvrir ce nouvel espace, bien sûr, qui est en tous les cas assez atypique et dans un environnement tellement préservé que voilà, c'est un bonheur.
Le son des peuples va bientôt résonner dans le Luberon.
Le festival itinérant de jazz et musique improvisée aura lieu du 28 avril au 7 mai d'Avignon à Fort-Calquier et de Maubec à Apt. Au programme de cette troisième édition, concerts et créations, masterclass et également des DJ sets et quelques surprises entre musique traditionnelle, envolée électronique, trance et groove endiablé. Le tout en petite et grande formation. Un festival Naino Productions en collaboration avec l'AJMI d'Avignon, la gare de Coustelet, le Vélo-Théâtre et l'Architop d'Apt, ainsi qu'Opus Neo de Fort-Calquier. Compositeur, guitariste et créateur du Son des Peuples, Pascal Charrier, directeur artistique de la compagnie Naino, présente ce rendez-vous musical unique au micro de Mathieu Marc. Pascal Charrier.
Le Son des Peuples, c'est un peu le festival où il faut venir pour écouter des choses, écouter et voir des choses que vous ne pouvez écouter et voir nulle part ailleurs. Donc déjà, c'est super. Et en tant que musicien, ben c'est l'occasion de faire partager plein de choses rares et qu'on a envie de faire partager à un plus large public possible. On est hyper heureux d'avoir pu créer ce festival avec autant de partenaires parce que c'est un festival coopératif. Ça part d'Avignon avec l'AJMI qui est une SMAC, scène de musique actuelle dédiée au jazz. Il y a la gare de Coustelet qui est une scène de musique actuelle qui est en plein cœur du Vaucluse. On a un théâtre à Apt, le Vélo Théâtre, qui est une scène conventionnée pour la marionnette qui accueille aussi un concert. Une MJC, donc un lieu d'éducation populaire qui accueille du concert, la salle des fêtes de la ville d'Apt. Et à Fort-Calquier, on collabore également avec une compagnie qui s'appelle Opus Neo, qui fait un peu le même travail que nous sur le pays de Fort-Calquier. Donc, ben ouais, c'est une occasion de faire découvrir et faire partager plein de musiques qui ne sont pas inédites, hein, qui existent, qui ont leur activité, mais qui sont plutôt rares dans le paysage local et régional. Et avec la spécificité d'un éclairage sur des créateurs qui viennent de l'étranger. Donc, chaque année, on invite un collectif de musiciens étrangers à venir partager cette semaine-là de fête avec nous. Et donc là, cette année, c'est des Norvégiens du collectif Nakama, qui sont des stars dans leur pays sur le jazz et les musiques improvisées, puisque leur pianiste vient de signer chez ECM. Enfin voilà, c'est des gens qui ont une grosse notoriété. Et donc on va se régaler, quoi. On espère passer des très très beaux moments.
Comment vous avez construit ce festival avec autant de partenaires? J'imagine que vous avez choisi des lignes directrices ou bien c'est des coups de cœur sur des artistes?
Eh bien, en fait, l'idée c'est que on propose une manière de réfléchir autour de la question du jazz en disant que c'est un endroit, c'est un espace de création où tout est à peu près possible et qui est à la croisée des chemins entre les musiques dites populaires et les musiques dites savantes. C'est vraiment la ligne médiane. Et donc à partir de ça, chacun des protagonistes, des coopérateurs, réfléchit à partir de son endroit comment lui voit quelle est la balle au centre en termes esthétiques, en termes musicaux. Donc le programmateur de la gare de Coustelet va proposer quelque chose qui a un lien avec le rock, sa propre culture musicale. À l'AJMI, il y a une proposition qui est plus axée sur la trance, proche des musiques traditionnelles. Moi, j'ai réfléchi à des propositions qui amènent de l'électro, aussi qui ont un lien avec des musiques contemporaines et des musiques trad aussi, complètement, puisqu'il y a des gens qui viennent, qui mélangent l'improvisation, l'écriture et des musiques traditionnelles occitanes. On essaye de voir comment ce terrain de jeu, cet espace de fabrication, ce lieu de fabrication de musique qui est extrêmement libre, extrêmement ouvert, et inclusif, qui est un lieu d'absorption, une espèce de vortex qui absorbe toutes les propositions musicales potentielles, arrive à restituer des formes inédites, un peu uniques comme ça. Et donc, on est hyper heureux de pouvoir donner à entendre et à découvrir tout ça, puisqu'en général, c'est des belles surprises, quoi.
Ce programme original et audacieux, du coup, lié aussi à un territoire assez large, j'imagine que ça amène aussi un public qui n'est pas forcément habitué au jazz, ou en tout cas, c'est peut-être l'idée.
Ben, l'idée, en ayant plusieurs acteurs qui participent, c'est que chacun aussi propose son interprétation et la manière de véhiculer son point de vue par rapport à ses musiques. Et donc, du coup, il va aller toucher son public, enfin le public qu'il a l'habitude de côtoyer et à qui il a l'habitude d'adresser, avec qui il échange, il propose des choses à découvrir. Et donc, du coup, ça donne des clés de lecture supplémentaires. Et ça nous permet aussi d'élargir le public de ses musiques parce que, en fait, elles n'ont pas d'autre opportunité d'être connus qu'en les entendant sur scène, qu'en les voyant en vrai. parce qu'il n'y a quasiment aucun espace radio public qui diffuse ces musiques-là, parce que les formats ne correspondent pas, ce n'est pas des musiques commerciales, elles n'ont pas vocation à être... en tout cas, elles pourraient avoir vocation à être très répandues, mais manifestement, ce n'est pas ce qui est le plus répandu comme proposition artistique sur les antennes. Donc, c'est vrai que nous, on a vraiment à cœur de les faire découvrir, parce qu'en général, on a tellement de bonnes réactions du public que, en fait, ça contredit toutes les statistiques qui disent que telle chose n'est pas ouverte, n'est pas adressée à un public. Enfin, c'est QFD. Nous, on n'a que des salles pleines quand on joue dans nos concerts, de gens, et parfois, qui ne correspondent pas à un public de jazz. Ça veut dire que ça marche, quoi.
C'est la fin de ce magazine. Merci François.
Merci à vous Olivier pour la régie. On se retrouve la semaine prochaine.